Bonjour à vous. Un excellent sabbat. À ce moment-ci de l'année, nous approchons du début du cycle annuel des sept fêtes que le Créateur a décrétées pour nous et que nous devons observer lorsque nous les connaissons. Et c'est un temps enthousiasmant de l'année, très enthousiasmant, parce que ces fêtes-là décrivent justement le plan de salut pour toute l'humanité que Dieu offre graduellement selon son plan justement aux individus à travers l'histoire. Bientôt donc, ce sera la Pâque et les pains sans levain. Ça, ce sont les deux premières fêtes de ce fameux cycle des fêtes de Dieu. Enthousiasmant comme période de l'année et occasion d'approfondir justement ce que ça veut dire pour que nous le comprenions davantage. Et chaque année que nous observons les fêtes et que nous en reparlons dans les messages, ça nous permet d'approfondir cette grande réalité que Dieu nous révèle dans sa parole. Alors aujourd'hui, dans le message, je vais vous parler principalement de la Pâque, qui est l'occasion la plus solennelle de l'année. Pour l'Église de Dieu, il s'agit ce soir-là, le soir de la Pâque, d'une réunion tout à fait spéciale pour célébrer avec une profonde reconnaissance et dans la dignité, la directive ou le commandement que Dieu nous a donné, la cérémonie annuelle de la Pâque. Ça, c'est le point central, comme on va le voir, de toute l'histoire humaine. C'est le point de départ du plan de Dieu, ce plan où Dieu veut donner l'immortalité à tous les êtres humains, selon les étapes. Lui a établi le plan à quel moment il allait attirer à la vérité certaines personnes. Dans l'Ancien Testament, ça a été un tout petit nombre. On voit simplement ces prophètes, par exemple. Ceux-là ont été appelés, ont reçu le Saint-Esprit, tout ça. À notre époque, c'est plus nombreux, à partir de la Pentecôte, de l'an 31 de notre ère. Et quand le Christ sera revenu, sous peu, l'ensemble de l'humanité qui sera encore vivante, là, à ce moment-là, sera appelé à connaître les mêmes fêtes que nous connaissons maintenant et que nous célébrons. Et ils auront accès aussi au trône de Dieu, à sa miséricorde et à la vie éternelle. Allez dans le troisième chapitre de l'Évangile de Jean, s'il vous plaît. Jean 3, et nous allons lire le verset 16, qui nous donne un bon point de départ sur la Pâque, sur ce que Dieu a fait pour nous, sur cet acte d'amour extraordinaire. Alors, Jean chapitre 3 et le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en Dieu, c'est pas juste savoir qu'il existe. Croire en Dieu, c'est vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible. Afin que quiconque croit en lui, donc qui s'applique au mieux à vivre selon ses lois, avec sa force, ne périsse point. Parce que si on n'est pas pardonné de nos fautes, nous tous qui avons péché, il n'y a pas d'espoir de vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit vraiment en lui et pratique ses voies, ne périsse point, mais qu'il ait accès à la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement ça. C'est le plan de Dieu que tous les êtres qui ont existé depuis le début, depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier qui viendra, puissent se voir offrir l'occasion de choisir de vivre selon ses voies. Mais comme tous ont péché, on a tous besoin du sacrifice de Christ pour être pardonné de nos fautes. Allez à Romains, s'il vous plaît, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a créé les êtres humains, pas comme des robots qui n'avaient pas le choix, là. Dieu a créé les êtres humains avec un libre arbitre, la possibilité de choisir. Et Dieu voulait que les êtres humains aient, chacun son tour, l'occasion de choisir de plein gré d'obéir à Dieu, même si ça coûte quelque chose, même si ça demande des efforts et tout ça. Mais Dieu ne voulait pas des robots dans sa famille, mais des êtres qui allaient choisir volontairement de vivre selon ses lois et lui allait les aider pour atteindre le but. Alors, Dieu a créé les êtres humains avec le libre arbitre. Et avant de créer Adam et Ève, et les autres humains, Dieu savait qu'ils allaient pécher. Et parce qu'ils étaient poussière et qu'ils allaient pécher, ils allaient retourner à la poussière sans espoir de vie éternelle. Leur vie allait être terminée là si Dieu n'intervenait pas pour racheter leur faute, pour les racheter, pour payer l'amende de la mort éternelle qui est la conséquence de tout péché. Alors voyez-vous, Dieu savait et Dieu savait qu'il y aurait une pénalité énorme à payer. Et la pénalité allait être tellement grande qu'il fallait que ce soit quelqu'un d'une valeur exceptionnelle, dont la vie était plus importante que la vie de tous les êtres humains de toute l'histoire. Et ça, c'est le cas du Christ, le Créateur. C'est marqué dans la Bible que Dieu a créé toutes choses par le Christ et pour le Christ. Alors, le Christ, en accord avec son Père, a décidé d'être ce sacrifice pour payer l'amende de nos fautes à notre place. Il a donné sa vie à notre place pour que, au moment où Dieu appelle chacun, que chacun puisse, avec le libre choix qu'il a encore, choisir de vivre selon les lois de Dieu, de demander pardon pour les fautes passées, d'être lavé de ses péchés dans les eaux du baptême et là marcher en nouveauté de vie avec la semence de Dieu en lui, parce que la semence de Dieu est donnée dans la personne au moment du baptême, au moment où la personne est plongée, pour ainsi dire, dans le sang de Christ. C'est ce que représentent les eaux du baptême, l'immersion totale. Et la nouvelle personne qui en ressort, c'est la première journée de sa vie spirituelle. La première journée vraiment de sa vie éternelle, parce que c'est à ce moment-là que par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu qui enseigne les lois de Dieu, la personne reçoit la semence de vie éternelle. Alors, cette décision-là, qui est un sacrifice d'une grande valeur pour payer l'amende de tous nos péchés, elle a été prise longtemps avant qu'aucun être humain n'existe. C'est formidable. Le plan de Dieu est tellement stimulant, tellement encourageant. Alors, le gouverneur de l'univers, qui est devenu plus tard le Père de Jésus, et son porte-parole, qui est devenu lui plus tard Jésus-Christ dans la chair humaine, ces deux êtres divins qui ont vécu de toute éternité savaient donc qu'il leur faudrait payer un prix énorme pour que chaque être humain, à tour de rôle, selon son acceptation personnelle, soit pardonné s'il se repentait, qu'il soit racheté, c'est-à-dire que l'amende de ses fautes soit payée, et qu'il soit ainsi délivré de la mort éternelle sous laquelle il était retenu, pour se voir offrir le contraire, l'immortalité, ce que nous n'avons pas, se voir offrir la vie éternelle dans la famille divine. Il y a un bon résumé de ça, donc, dans Romains 3, versets 23 à 25. Romains 3, versets 23 à 25. Verset 23. Car tous ont péché. Tous les êtres humains ont péché. Tous ont péché. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'on voit ailleurs dans la Bible que nos péchés mettent un mur de séparation entre Dieu et nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, heureusement, gratuitement justifiés, purifiés, lavés de leurs fautes. Pourquoi? Parce que Dieu est gracieux envers eux, par sa grâce, parce que Dieu peut leur pardonner. Comment? Par le moyen de la rédemption. C'est-à-dire par le moyen du rachat qui a été payé pour nous par Jésus-Christ, comme c'est marqué ici. Alors, je reprends la phrase parce que c'est une phrase clé par rapport à ce que je vous explique. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés ou lavés par sa grâce, par sa miséricorde, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, c'est lui qui avait été choisi comme victime pour payer à notre place. La parole de Dieu, elle est vraiment claire là-dedans, pour que nous soyons rachetés. Sa vie, son sang, ont tellement de valeur que ça peut, justement, payer pour les fautes de l'ensemble de l'humanité. Mais c'est chacun individuellement, au moment où Dieu nous attire au Christ, qu'on doit examiner les choses, prendre les décisions qui s'imposent, aller vers le baptême, demander pardon pour notre vie passée et commencer cette vie nouvelle en tant que l'homme nouveau ou la femme nouvelle qui sortent des eaux du baptême. Alors donc, je reviens là-dessus, avant que le monde existe, avant que le monde matériel qu'on connaît autour de nous soit amené à exister, ça avait été planifié que le Christ serait l'agneau sacrifié, l'agneau de Dieu, comme le dit la parole. L'agneau qui allait être le sacrifice tellement précieux, tellement riche, qu'il allait pouvoir compenser pour les fautes de tous les autres êtres humains et payer l'amende de leurs péchés. Reportez-vous à 1 Pierre chapitre 1 à ce sujet-là. 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1, on va lire à partir du verset 18. Verset 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Pourquoi il dit qu'on a hérité ça de nos pères? Parce que tous ont péché depuis Adam et Ève. C'est l'histoire de l'humanité. Alors il dit ici, c'est pas par de l'argent qu'on peut racheter ça. Et personne ne peut payer pour l'amende de ses propres fautes. C'est trop grand. Ça demande trop. Il y a seulement le Créateur qui donne sa vie pour nous, dont le sang versé peut laver nos fautes, peut payer l'amende. Alors je reprends. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, notre grand frère, notre Créateur, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Lui n'avait jamais péché. Il n'a rien mérité. Il n'a pas mérité de mourir. Il a accepté. Ça nous montre la grandeur de ce geste-là de sa part et la grandeur du geste du Père aussi, qui a donné son Fils unique. Parce que quand ça s'est produit, quand le Christ est mort sur la croix, qui a été torturé, le Père n'était pas insensible à ça, comme un Père n'est pas insensible à la misère de ses enfants et à la souffrance de ses enfants. Alors les deux ont payé un prix énorme. Alors il dit, mais par le sang précieux, vous avez été rachetés, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Voyez-vous, ça avait été décidé avant que le monde n'existe. C'est ce que je vous mentionnais tantôt. Avant que le monde n'existe, ça avait été prédestiné que le Christ devrait mourir. Et c'est pour ça que Jean 3, verset 16, a tellement d'importance quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la chance d'atteindre la vie éternelle, le but pour lequel Dieu donne la vie à tous les êtres humains, passé, présent et avenir. C'est son grand but, ça n'a pas changé. Alors, c'est pourquoi chaque appelé a besoin, un besoin même, je dirais, absolu et essentiel, du sacrifice de la Pâque. Parce que sans la Pâque, sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de pardon de nos fautes. C'est impossible. Et il n'y a pas non plus d'espoir de la vie éternelle. Ça va exactement ensemble. Chaque appelé a un besoin absolu du sacrifice de la Pâque, a un besoin absolu dans ce sens-là, parce que ça va ensemble, de passer par les eaux du baptême pour être pardonné de ses péchés par le sang de Jésus. Comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'on est baptisé, on est plongé totalement dans l'eau qui représente le sang du Christ qui nous lave de toute notre vie passée. Et quand on sort des eaux du baptême, c'est comme si notre vie passée n'existait plus. Les péchés qu'on a commis avant n'existent plus aux yeux de Dieu. L'amende en a été payée. Et c'est à ce moment-là, quand on sort des eaux du baptême totalement purifié, que Dieu place en nous la semence de la vie éternelle, qui est un germe de ce qu'il est lui-même, son Saint-Esprit. Comme on voit dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38 nous dit ceci, pas besoin de vous y reporter, c'est un verset que vous connaissez très bien pour la plupart. L'apôtre Pierre déclare ceci, ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit de Dieu en nous, un dépôt de vie éternelle, et pour avoir l'espoir de l'immortalité. Pierre dit ceci, repentez-vous. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a transgressé les lois de Dieu, vouloir changer, vouloir ne plus répéter nos fautes. Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et quand on demande le baptême, après avoir bien compris ce que ça veut dire, et c'est pour ça qu'on prépare les gens avec suffisamment de temps, d'explication pour que les gens comprennent le sens de l'engagement qu'ils prennent au moment de leur baptême, il dit, afin que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, parce que c'est à ce moment-là seulement que le pardon des péchés est accordé par le sang de Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après avoir été lavé totalement, qu'il n'y a plus rien de notre vie ancienne en termes de fautes qui existent aux yeux de Dieu, là, à ce moment-là, Dieu peut mettre sa présence, son Saint-Esprit, sa puissance à l'intérieur de ceux qui l'appellent. Avant, Dieu avait placé son Saint-Esprit autour de la personne pour qu'elle soit capable de comprendre le plan de Dieu et d'en être intéressée, de s'y intéresser puis de vouloir aller plus loin. Quand ça se passe dans la vie de quelqu'un, ça, c'est parce que Dieu l'appelle et que Dieu place son Saint-Esprit avec la personne pour l'aider à faire les premiers pas. Dieu nous aide tout au long de la route, là. Et après qu'on a son esprit en nous, bien, c'est encore plus fort parce que là, le Christ vit sa vie en nous. Maintenant, est-ce que Dieu aurait pu procéder autrement que par le sang versé pour payer l'amende de nos fautes? La réponse, elle se trouve, vous pouvez aller voir vous-même, dans Lévitique 17, le verset 11. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. La vie de la chair est dans le sang. On sait que notre vie, c'est dans le sang qui circule à l'intérieur de notre système et qui maintient la vie en nous. Alors, voyez-vous, le sang versé peut payer l'amende de nos fautes dans ce sens-là. Et c'est pourquoi aussi, à un moment donné, on voit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul qui dit, « Jésus, le Christ, notre Pâque a été immolé. » Le Christ, notre Pâque a été immolé. Il est la Pâque, il est le sacrifice, il est l'agneau vivant qui a donné sa vie, justement, pour que nous soyons lavés de nos fautes. Maintenant, je vais plus loin pour qu'on fasse le tour de ce sujet-là aujourd'hui. Qui peut prendre la Pâque? Et je devrais dire qui doit prendre la Pâque. C'est pas tout le monde, bien sûr, au point de départ, qui sont à l'Église, qui peuvent prendre la Pâque. Ça s'explique clairement par les textes. C'est seulement les membres baptisés de l'Église de Dieu qui peuvent prendre la Pâque. C'est-à-dire ceux qui se sont repentis, comme on a vu dans ce que l'apôtre Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés. » Il faut d'abord se repentir de nos péchés. Il faut être lavé par les eaux du baptême, lavé de nos fautes, passé sous le sang du Christ. Et à ce moment-là, on devient ce que la Bible appelle des transformés de cœur. Même le mot est encore plus descriptif, des circoncis de cœur. Donc, il y a eu en nous des changements intérieurs profonds. On a regretté d'avoir causé, parce qu'on l'a causé, la mort du Christ. On a demandé pardon, on a demandé d'être lavé, on a passé par les eaux du baptême et on reçoit son Saint-Esprit. Et là, on est circoncis de cœur. On connaît une transformation totale. Et cette transformation totale-là, dont nous parle le Nouveau Testament, on la retrouve dans l'Ancien Testament, dans Genèse 17. Allez à Genèse 17 et le verset 10. Parce que, voyez-vous, c'est représenté ça symboliquement par la circoncision physique que Dieu a donné à Abraham, a demandé à Abraham de faire. La circoncision physique de l'Ancien Testament représente la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur que nous devons faire, par laquelle nous devons passer lorsque Dieu nous appelle à l'époque du Nouveau Testament. Alors, regardez Genèse 17, on va lire les versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. tout mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'était la circoncision physique. Verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. L'ancienne alliance sous l'Ancien Testament. Et maintenant, vous pourrez aller voir pour vous-même pour compléter votre étude. Mais donc, les descendants d'Abraham devaient être circoncis pour prendre la Pâque. Et quand il y avait des étrangers qui étaient au milieu d'eux et qui commençaient à comprendre ce qui se passait et qui voulaient y participer, Dieu donne une directive. Vous irez voir dans Exode 12, verset 48. Exode 12, 48. Je vais vous le lire. Il dit, si un étranger, donc un non-israélite, veut faire la Pâque chez vous, la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Donc, pour prendre la Pâque, pour les Israélites et ceux qui se joignaient à eux, sincèrement, devaient être circoncis. Ça, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est différent. Allez à Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, on va voir une explication de ça qui nous aide. Romains chapitre 2, et on va lire le verset 28. Parce que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on est circoncis de cœur, on devient des Israélites, ou ce que la Bible appelle des Juifs, mais des Juifs spirituels. Non pas des Juifs par généalogie, mais des Juifs spirituels, ou des Israélites spirituels. Romains 2 et le verset 28. Romains 2, verset 28. Le Juif, ou l'Israélite spirituel, si vous voulez, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. La circoncision physique de l'Ancien Testament, sous Abraham, dont je vous parle. Il dit, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais, verset 29, le Juif ou l'Israélite spirituel du Nouveau Testament, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, de cœur. Il y a eu un changement de cœur. C'est pas extérieur. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Un changement de cœur total. La circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà. La parole de Dieu est impressionnante dans sa façon d'articuler le plan de Dieu de façon tellement précise, de façon tellement claire et encourageante. Alors, voyez-vous, dans l'Ancienne Alliance, seuls ceux qui étaient circoncis physiquement pouvaient prendre la Pâque. Et dans la Nouvelle Alliance, à notre époque, ce sont ceux qui sont membres baptisés de l'Église qui peuvent prendre la Pâque. Donc, en ces temps-ci de l'année, alors que nous approchons du début du cycle des fêtes annuelles, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux qui sont baptisés se préparent actuellement à prendre la Pâque et mettent leur attention là-dessus. C'est pour ça que je vous disais tantôt aussi, malgré les circonstances troublantes qu'il y a autour dans le monde, il ne faut pas mettre les priorités là. Il faut mettre la priorité sur notre préparation aux fêtes du printemps. On observe ce qui se passe dans le monde. Le Christ a dit de veiller et de prier, on le fait, mais on ne met pas ça de surveiller les événements du monde avant le fait de se préparer pour les fêtes du printemps. Alors, les baptisés se préparent joyeusement parce qu'ils ont été pardonnés de leurs fautes. Et Dieu pardonne encore à chaque jour lorsqu'on manque la cible à certains points. On n'est pas encore parfait. C'est un processus vers la perfection qui dure toute la vie. Et on sait que Dieu va nous rendre parfaits seulement le jour où le Christ va revenir si nous sommes encore en train de travailler à nous perfectionner. Alors, en ce moment, les baptisés se prépare avec joie aux fêtes du printemps, à prendre la Pâque. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés se préparent aussi avec joie, en continuant d'examiner la parole de Dieu, de prouver les choses pour eux-mêmes avec l'aide de Dieu, et de travailler à changer avec l'aide de Dieu, même s'ils n'ont pas pris la Pâque encore, c'est à venir. Mais en faisant ça, ils se préparent à prendre la Pâque éventuellement, s'ils sont fidèles dans cette démarche-là. Maintenant, je vais aller plus loin parce que c'est bon qu'on ait une vue d'ensemble de l'importance de la Pâque, de l'ampleur que ça a et de l'importance que ça a. Allons dans Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Pour vous situer dans le temps de ce qu'on va lire ici, ça, c'est après que Dieu a eu envoyé 9 plaies terribles sur l'Égypte en préparation de la libération des Israélites de leur esclavage après des centaines d'années là-bas. C'est juste avant la 10e plaie où Dieu allait tuer tous les premiers-nés dans toutes les maisons et dans toutes les étables, premiers-nés des humains et des animaux, le soir de la Pâque, pour ceux qui ne seraient pas sous le sang protecteur de l'agneau. C'est important qu'on voit ça parce que ça a un rapport direct aussi avec la Pâque que nous vivons, nous, maintenant, avec les nouveaux symboles que le Christ a donnés. Ce qui a été commandé à l'ancienne nation d'Israël, c'était symbolique par rapport à ce que nous faisons après que le Christ a eu déterminé les symboles définitifs de la Pâque spirituelle que nous prenons. Alors, donc, Exode 12, regardez le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Ça, c'est le calendrier sacré de l'année. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et là, il devait tuer l'agneau, le faire rôtir et le manger. Bon, allons au verset 5 maintenant. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. » Déjà là, on voit le symbolisme merveilleux de cet agneau-là. C'était la représentation symbolique du Christ qui allait venir lui donner sa vie alors qu'il n'avait aucune tâche, aucun péché. Il l'a fait volontairement par amour pour nous. Alors, ce sera un agneau sans défaut, comme le Christ. Mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Versets 6 à 8. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Pour vous, il y avait des moments précis. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça, c'est le moment qu'il y a entre le coucher du soleil et la pleine noirceur. C'est ce que la Bible appelle entre les deux soirs. Alors, on l'immolera entre les deux soirs. Donc, on mettra à mort ce petit agneau entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, il devait immoler l'agneau, prendre du sang, mettre du sang sur le linteau de la porte et sur les poteaux d'entrée de la porte de la maison. Et vous allez voir pourquoi. C'est symbolique, mais c'est puissant. Et ceux qui l'ont fait ont été épargnés de la mort. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont subi des morts. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Déjà, il y avait introduction de cette notion de pain sans levain, qui, on sait, représente l'absence de péché. On mange, nous, pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain, chaque jour, un peu de pain sans levain qui représente la perfection du Christ vers laquelle on doit tendre. Alors, voilà la directive qui était donnée. Maintenant, regardez le verset 11. Allons plus loin. Quand vous le mangerez, l'agneau, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vous serez vêtus totalement, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, le bâton de marche. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que c'était une situation d'urgence. C'est cette nuit-là que l'ange de la mort allait passer pour détruire les premiers-nés qui n'étaient pas sous cette protection-là. Et eux devaient se préparer parce qu'ils partaient le lendemain soir. Ils devaient quitter l'Égypte le lendemain soir. Alors, ils devaient déjà être prêts. Le sentiment d'urgence. Comme nous, maintenant, on voit autour un sentiment d'urgence dans les événements qui s'installent pour que nous nous préparions, pour que ceux que Dieu appelle qui ne sont pas baptisés continuent avec reconnaissance leur préparation et que ceux qui sont baptisés se préparent à prendre la Pâque d'une façon digne, reconnaissante, joyeuse et vraiment de tout cœur, avec profondeur. Et regardez maintenant ce qui s'est passé tout de suite après, quand il leur a dit « Vous mangerez l'agneau que vous aurez immolé entre les deux soirs, vous le mangerez avec votre bâton à la main, prêt à partir. » Verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. Le sang qu'ils avaient mis sur la porte, sur le linteau et les poteaux, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, c'est Dieu qui parle, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est le sens de la Pâque. Le mot originel pour la Pâque, c'est passer par-dessus. Donc, épargner, passer par-dessus ceux qui allaient être sous le signe du sang de l'agneau sur la porte de leur maison. Et c'est le sens de la Pâque. Et ceux qui sont baptisés se sont placés sous le signe du sang de Christ, sous le sang rédempteur du Christ, pour se voir éviter la mort éternelle. Et après, il dit ceci, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » On le célèbre encore. Et ce sera célébré après le retour du Christ très bientôt pour enseigner aux nations la beauté de ce que ça représente et leur montrer que c'est le chemin vers la vie éternelle. Formidable! Alors ça, c'est ce qui s'est passé lors de la première Pâque instituée par Dieu au moment où les Israélites se préparaient à quitter l'Égypte. Ils devaient d'abord être placés sous le sang de l'agneau qui symbolisait le sang du Christ et ce faisant, ils allaient être épargnés de la mort, ils allaient pouvoir fuir le lendemain et ensuite s'éloigner du mal, s'éloigner de l'Égypte qui représente le péché. Maintenant, on se reporte dans le temps, 15 siècles plus tard, à peu près 1500 ans plus tard, le Christ est venu sur la terre et lui, en tant que maître du sabbat, en tant que créateur de toutes choses, en tant que notre grand roi à venir, lui a changé les symboles de la Pâque. Allez dans le 22e chapitre du livre de Luc, s'il vous plaît. On va le voir. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Et on va lire le verset 1. Et là, on va voir la période de temps où le Christ a changé les symboles en question. C'est ce qui explique comment nous célébrons la Pâque maintenant. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Là, je fais une petite parenthèse. Voyez-vous, il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. C'était la façon à l'époque de mentionner la Pâque comme étant toute cette saison-là. Pas simplement le jour de la Pâque, mais les jours de pain sans levain et aussi les jours de préparation. Parce que eux aussi, comme nous, on va faire avant la Pâque et les pains sans levain, on va enlever tous les produits levés de notre maison et le levain et on va mettre de côté ou se préparer des pains sans levain pour en manger un peu chaque jour. Alors, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Alors, voyons maintenant le verset 8. Verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Voyez-vous, c'est le Christ qui a déterminé où ça allait se passer. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Bon. Alors, ici, donc, on voit qu'il y a un moment précis et il y a un lieu précis qui est déterminé par le Christ. Et c'est ce soir-là que Jésus a été arrêté après avoir mangé le repas de la Pâque. C'est après ça qu'il a été arrêté, qu'il a été martyrisé durant la nuit et ensuite qu'il a été crucifié dans la partie diurne de la journée du 14e jour de Nissan. Et à la fin de l'après-midi, au milieu de l'après-midi, qu'il est décédé. Après ça, il a été mis au tombeau, au sépulcre, juste avant le sabbat. Et ce sabbat était un grand jour. C'était le premier jour des pains sans levain. Donc, on va plus loin. 14, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Alors, voyez-vous, lorsqu'on prend la Pâque, c'est à un moment précis, à une heure précise, entre les deux soirs, comme au moment où l'agneau avait été mangé. Alors, à une heure précise. Et c'est un lieu déterminé. On a vu que c'est le Christ qui a dit, allez à telle place, vous allez rencontrer un homme qui a une cruche d'eau, suivez-le et demandez au maître de la maison qu'il vous garde une place parce que c'est là qu'on va manger la Pâque ensemble. Alors, c'est Dieu qui détermine l'heure, qui a déterminé l'heure, qui est toujours la même, et le jour qui est toujours le même, et le lieu où ça doit se faire. Gardez votre place ici dans Luc 22. On va aller dans Deutéronome 16 pour voir le lien. Deutéronome chapitre 16. Tout ça se tient, vous allez voir, c'est fascinant quand on fait une recherche un petit peu plus poussée là-dessus. Là. Le plan de Dieu est tellement précis et tellement formidable. Deutéronome 16, versets 5 et 6. Dieu avait déjà précisé comment on allait procéder pour la Pâque et les pains sans levain. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Donc, Dieu avait déjà dit, vous ne célébrerez pas la Pâque n'importe où dans votre pays, là. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque. Mais vous, c'est lui qui détermine le lieu et qui inspire ses ministres pour trouver l'endroit qui convient. Et après, il précise, le soir, au coucher du soleil, donc entre les deux soirs, le soir au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte. Voyez-vous comment tout est précis dans le plan de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament. Revenez maintenant à Luc 22. Luc 22, verset 14, je vous rappelle simplement que l'heure étant venue, donc c'est à une heure précise qu'on prend la Pâque, et dans un lieu désigné par le Christ à ce moment-là, et maintenant par un lieu qui est déterminé par les serviteurs de Dieu, par ses ministres, qui demandent à Dieu de lui montrer quel est l'endroit qu'il veut utiliser. Versets 15 à 20 maintenant. Voyons ce que le Christ a fait lors de cette dernière Pâque qu'il a prise avec ses disciples, avec ses apôtres, avant d'être arrêté et torturé. Verset 15, il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Voyez-vous, il a changé les symboles. Voici maintenant, là, ceci va représenter mon corps. C'est pas son corps réellement, comme certaines églises prétendent, en disant que l'hostie, c'est le corps du Christ, là, comme tel, que le Christ est rentré dedans. Non, non. C'est un symbole. Ça, c'est la vérité. Ceci est mon corps. Donc, le symbole que je vous donne, pour prendre la Pâque désormais. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors voyez-vous, ce sont ici les nouveaux symboles que le Christ leur a donnés pour prendre désormais la Pâque, pour célébrer cette cérémonie. Il ne devait plus tuer un agneau qui représentait l'agneau parfait qui allait venir, le Christ, sans tache. Et son corps allait représenter, être représenté, dis-je, par le pain sans levain, où il n'y a pas de levain dedans, où il n'y a pas de péché. Et un petit peu de vin allait représenter son sang. Allez maintenant dans Jean, chapitre 6. L'évangile de Jean, au chapitre 6. On continue. Jean, chapitre 6. Dans ce chapitre-là, ici, Jésus nous montre la grande signification des deux symboles dont je vous parle. Et c'est important pour ceux qui se préparent à prendre la Pâque de les comprendre plus profondément chaque année, d'en voir la valeur, justement pour prendre la Pâque dignement et avec la reconnaissance qui est due envers Dieu et envers son bien-aimé. Alors, Dieu nous montre ici, le Christ nous montre ici la grande signification des deux symboles et l'absolue nécessité pour les circoncis de cœur, pour les baptisés, de prendre la Pâque. Faites ceci en mémoire de moi, c'est un commandement. Alors, il faut le prendre. Il faut recevoir ce commandement-là et prendre la Pâque une fois par année comme ça nous est donné. Alors, Jean 6, le verset 51. Jean 6, verset 51. Regardez ce que le Christ déclare ici. Ça confirme encore ce que je vous dis, que le petit morceau de pain sans levain qu'on prend à la Pâque et ensuite qu'on mange chaque jour durant la semaine des pains sans levain, ça représente lui-même, le Christ, une représentation. Il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, donc si quelqu'un prend la Pâque après s'être repenti, après avoir été lavé de ses fautes, il vivra éternellement. Pourquoi? À cause de ce que je vous ai dit tantôt. Parce que lorsqu'on passe par les eaux du baptême, qu'on se repent réellement, qu'on est lavé de nos fautes, ensuite on reçoit la semence de vie éternelle, on est en direction de l'immortalité. Il dit après, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Formidable. Regardez verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Pour eux autres, là, c'était comme du cannibalisme, ça. Ils ne comprenaient pas que c'était un symbole. Ils ne pouvaient pas comprendre non plus, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et en plus, les chefs religieux étaient contre le Christ. Ils cherchaient à le piéger continuellement. Alors, regardez le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, donc autrement dit, si vous ne prenez pas à la Pâque les symboles que moi, en tant qu'autorité suprême sous le gouverneur de l'univers, moi, le sacrifice vivant, l'agneau, moi, je vous dis de prendre, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas en vous la vie éternelle. Regardez, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Voyez-vous, si on n'est pas baptisé, on n'a pas encore été lavé de nos fautes. Si on n'est pas baptisé, on n'a pas encore le Saint-Esprit en nous. Il faut que ces étapes-là viennent avant qu'on puisse aller plus loin. Allons au verset 54 maintenant. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la Pâque, à la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a fait le chemin que Dieu lui a montré de faire pour changer et se mettre sous la protection du sang du Christ et se mettre entre les mains du gouverneur de l'univers pour avoir la force du Christ en lui afin de devenir de plus en plus comme le Christ, de revêtir le Christ. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Il y a déjà un dépôt de la vie éternelle parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, c'est intéressant de mettre ça ensemble comme il faut, ces morceaux-là, les morceaux du casse-tête, là, parce que la vie éternelle fait partie de cette démarche-là. Voyez le verset 55 maintenant. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, symboliquement. » OK? C'est ce qu'il leur mentionne ici. Verset 56. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la Pâque, demeurera en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Encore la vie éternelle en bout de ligne pour celui qui va mettre en pratique les directives de celui qui a changé les symboles et qui a donné cette Pâque nouvelle, la nouvelle alliance dont il est question. On ne s'y reportera pas, mais vous irez voir dans Romains 8, verset 11, qui va exactement dans le même sens, qui clarifie la chose encore davantage. Romains 8, verset 11. « Si l'Esprit, le Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ça c'est le Père qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, le Christ est le premier-né d'entre les morts, le premier-né spirituellement, il dit « Si l'Esprit, le Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, parce qu'on a passé par les eaux du baptême et qu'on a reçu son Saint-Esprit, si cet Esprit-là habite en vous et qu'on continue de le garder en continuant de pratiquer ses lois, parce qu'on cesse de pratiquer ses lois, l'Esprit se retire. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si son Esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous, si vous lui appartenez en tant que circoncis de cœur, en tant que baptisé. en tant que personne qui continue à se repentir. Alors, prendre la Pâque, c'est se rappeler ce sacrifice inouï qui a été fait par l'agneau de Dieu, par notre Créateur. Et c'est se rappeler l'engagement que nous avons pris au baptême, de changer et de continuer à changer tout au long de notre vie. Le combat n'est jamais fini. Et parfois, l'adversaire nous ramène des pièges, on retombe dans des anciennes problématiques, et il faut reprendre le combat, demander pardon, demander son aide. Et Dieu est prêt à nous la donner. Et il nous la donne parce qu'il veut nous amener à terme. Écoutez, il a payé tellement cher qu'il est prêt à tout nous donner pour que nous y arrivions. Mais il faut que nous fassions notre part. Il faut lui demander, lui faire confiance. Et notre part à faire, notre rôle à jouer, de rejeter toute forme de mal, ça, c'est les pains sans levain. C'est le fait de manger à la Pâque un peu de pain sans levain et tout au long de la semaine, des pains sans levain, de manger un peu de pain sans levain. Ça, c'est représenté par le jour suivant et la semaine qui suit, les 7 jours de pain sans levain. Allez voir ce que Paul en dit à 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Vous allez voir, c'est très, très clair encore. Le plan de Dieu n'est pas compliqué, mais pour le comprendre, il faut que Dieu nous donne de le comprendre. Et c'est ce qui est fascinant quand Dieu appelle quelqu'un et qu'on voit la personne commencer à comprendre des choses qu'il est impossible de comprendre autrement que par le fait que Dieu lui donne. Ça, c'est tellement encourageant parce qu'on voit que Dieu travaille avec cette personne et la personne est stimulée, encouragée. Alors, voyez ce que Paul dit ici concernant ça. Verset 7, 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Donc, il faut se débarrasser de nos vieilles façons de faire, nos vieilles façons de penser, nos vieilles façons d'agir. Ça, c'est le levain dans nos vies. Ça représente l'Égypte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, une Pâque différente. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce que je vous disais tantôt. C'est le Christ qui est notre Pâque. Il a été immolé. Quand on passe par les eaux du baptême, notre vie passée, toutes les amendes de nos fautes ont été payées. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et après, il dit, verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, ce que nous étions tous avant, et ce contre quoi nous continuons de nous battre régulièrement. » Il dit, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ça, c'est le chemin à suivre que Dieu nous donne. Voyez-vous, parce que les Israélites ont célébré la Pâque en Égypte qui leur avait été commandée, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été épargnés de la mort physique. Pas pour rester esclave en Égypte, mais pour quitter l'Égypte ensuite. Et c'est la même chose pour nous. À notre baptême, nous nous sommes placés sous le sang rédempteur du Christ pour être épargnés de la mort éternelle et pour sortir de l'Égypte spirituelle de nos anciennes voies, de nos anciennes façons de faire. C'est clair, hein? Et tout ça va ensemble, là. Écoutez, le Christ a payé personnellement tellement cher pour que nous soyons libérés des conséquences mortelles du péché que nous devons travailler vraiment de tout cœur, avec son aide, tout seul on n'est pas capable, mais avec son aide, pour ne plus retourner sous l'esclavage de nos anciennes fautes. Je vais vous montrer maintenant, avant d'aller plus loin, puis avant de terminer, la description prophétique de ce fameux sacrifice sans pareil qui a été fait par le Christ. Allez dans Ésaïe, chapitre 53. Ça, c'est un chapitre qui est tellement touchant. Chaque fois que je vois ces passages-là, ça me touche énormément et avec raison. Parce qu'on voit la grandeur du sacrifice qui a été fait. Ésaïe 53, ça parle du Christ lui-même, versets 1 à 6. Qui a cru à ce qui était annoncé? Le sacrifice a été annoncé longtemps d'avance. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras du Père, qui avait envoyé son fils pour donner sa vie, comme on l'a vu tantôt. Il s'est élevé, lui, le Christ. Il s'est élevé devant lui, devant son père, comme une faible plante. Il est devenu un être humain, un petit bébé dans la chair humaine. Il a grandi, il est devenu un adolescent, il est un homme, et ensuite il a accompli son ministère jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, il a été même abandonné par tous, y compris par ses disciples. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et c'est ce que les gens ont fait lorsqu'il a été tellement massacré. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris sur ses épaules toutes nos fautes, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. On ne connaissait pas Dieu, personne d'entre nous. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pourquoi? Pour que nous ayons accès à son trône de miséricorde et accès à la vie éternelle. Regardez le verset 9 et 10. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. On voit ça dans les textes du Nouveau Testament. Le Christ a été mis au tombeau d'un homme riche. On a mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, au Père, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre du gouverneur de l'univers, son Père, prospérera entre ses mains. Oui, parce que, comme on voit dans Ésaïe 9, verset 6, il va donner au gouvernement de Dieu une croissance sans fin après son retour prochain sur la terre. Alors, ça, c'est ce qui attend le Christ. Et nous aurons part à ça si nous sommes fidèles. C'est fantastique. Maintenant, regardez Ésaïe 52, juste un peu avant. On parle encore du Christ ici. Versets 13 à 15. C'est le Père qui parle encore. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Il a une destinée incroyable, parce qu'il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Et il revient ensuite, Dieu inspire Ésaïe de dire ce qui va se passer, ce qui allait se passer, les souffrances qu'il allait subir, puis ensuite les bénédictions qui allaient suivre. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi lorsqu'il a été torturé, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ça veut dire que son visage ne ressemblait plus du tout à un visage humain. Ça indique un peu à quel point il a été martyrisé. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Pourquoi? Parce qu'un jour, les peuples anciens, les peuples actuels vont comprendre la grandeur du sacrifice de Christ. Ce qui a été souffert pour chacun des individus. Un jour, ils comprendront. C'est ce qui est mentionné ici. Et ça, c'est annoncé environ 700 ans avant que le Christ vienne sur la terre pour se donner en tant qu'agneau de Dieu. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voyez-vous la grandeur du sacrifice de Christ? Et ce que je veux ajouter ici, en relisant ça et en préparant le message, je me suis rendu compte un peu plus encore que celui qui a inspiré Ésaïe d'écrire ces choses-là, c'est le Christ, qui allait, 700 ans plus tard, vivre la description de ce qui est mentionné ici, qui allait être méprisé, torturé, qui allait être crucifié, que son visage allait être tuméfié, défait, au point de ne plus ressembler à un visage d'être humain. C'est lui le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, qui avait inspiré Ésaïe d'écrire ça. Et quand le Christ, le soir où il a été arrêté, a prié son Père avec tellement d'intensité, à tel point qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient des pores de sa peau, il y avait une tension extrême, comme c'est pas possible, parce que lui savait exactement, mot à mot, ce qui allait se produire dans les heures suivantes, ce par quoi il allait passer. Et il ne voulait pas reculer. Par amour pour qui? Pour vous et pour moi, pour les nôtres qui ne sont pas appelés encore et qui seront appelés au bon moment. C'est en mémoire de lui que nous célébrons la Pâque. C'est si important. Et on le fait selon son commandement. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Allez à 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11. Le Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous prenons la Pâque avec une profonde reconnaissance. Une fois par année, à une date précise et dans le lieu que Dieu nous montre. Et ce n'est pas à chaque jour, là, sous la forme d'une hostie, là. Ça, c'est contraire à la loi de Dieu. Et ce n'est pas non plus 3 ou 4 fois par année, selon certains groupes soi-disant chrétiens, qui pensent plaire à Dieu, sincèrement peut-être, mais qui ne plaisent pas à Dieu en faisant ça, parce qu'ils ne suivent pas ses directives. 1 Corinthiens 11 et le verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe le soir de la Pâque, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est la grandeur de la cérémonie à laquelle nous allons bientôt participer. C'est un mémorial de son sacrifice. Et j'ajoute ceci, c'est un mémorial de son sacrifice immérité. Immérité par lui, parce qu'il n'a jamais péché. Mais il a payé l'amende à notre place, par exemple. Et immérité par nous, parce que c'est impossible que nous puissions mériter que notre Créateur meure pour nous à notre place, subisse le martyre à notre place, pour que nous soyons pardonnés et que nous ayons accès à la possibilité de recevoir un jour la vie éternelle si nous sommes fidèles. Voyez-vous, c'était immérité de sa part et de notre part. Vous pourrez aller voir, on ne s'y reportera pas, mais Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est fort, hein? C'est fort. Notre responsabilité est celle-ci, c'est de prendre la Pâque dans la bonne attitude. Regardez le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Donc, il faut prendre la Pâque dignement. Il dit, celui qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ici, certains lisent ce passage-là et disent, je suis pas digne de prendre la Pâque. J'ai des nouvelles pour vous si vous pensez ça. Vous avez entièrement raison. Parce que c'est mon cas aussi. Il n'y a pas un être humain qui est digne de prendre la Pâque et qui pourrait faire tellement pour se montrer digne de prendre la Pâque, pour mériter, autrement dit, de prendre la Pâque ou pour mériter que le Christ meure pour nous. C'est ça que ça veut dire. Par contre, faut comprendre que la prendre indignement, la Pâque, et s'attirer des foudres de Dieu dans ce sens-là, quand on le sait, c'est la prendre de manière négligente, sans réfléchir, sans se préparer, sans réaliser de plus en plus la grandeur du prix qui a été payé pour nous et sans l'apprécier vraiment. Alors, la prendre dignement, c'est simplement la prendre avec une attitude qui continue de se repentir, continue de travailler à changer. Réfléchir à ce que le Père et le Fils ont fait pour nous et continuent de faire. Et regardez le verset 28 maintenant. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Formidable. Et l'examen de soi, ce n'est pas une auto-torture, là. C'est un auto-examen honnête. On peut regarder aussi les points qu'on a réussi à améliorer dans notre vie spirituelle au cours de l'année pour s'encourager. Mais le point principal, c'est de regarder, et c'est le cas de tous, ce qu'on a encore à changer, ce qu'on a encore à améliorer. Est-ce que ma façon de penser, ma façon de m'habiller, ma façon de manger, ma façon d'agir, ma façon de réagir devant les autres, est-ce que, par rapport aux autres, est-ce que c'est conforme au Christ? Est-ce que j'agis de plus en plus comme le Christ agirait à ma place? C'est ça. Planifier, autrement dit, mieux faire. Planifier nos actions, nos pensées, nos réactions. Donc, prendre les choses au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit être pris dignement à la Pâque. Et raison de plus maintenant que nous voyons les choses avancer à vitesse grand V sur le plan mondial vers la fin qui approche, il faut être sérieux et vraiment passer à l'action. Les choses qu'on a à changer, il faut faire les choses qu'il faut pour les changer avec l'aide de Dieu. Parce que la vraie foi, c'est agir selon ce qui nous est révélé. C'est agir selon ce qu'on sait. Autrement, c'est pas la foi. Absolument pas. Satan a la foi, mais il a une fausse foi. Il sait que Dieu existe, bien plus que vous et moi. Il l'a vu en personne. Mais il n'agit pas selon ce que Dieu dit de faire. Alors, la vraie foi selon Dieu, c'est d'agir selon ce que Dieu nous dit de faire, de vivre selon toute parole de Dieu. Écoutez, si en tant que membre de l'Église, on est dans une salle et que un des responsables de la salle arrive et dit « Il y a le feu à la bâtisse, partez. » Si on reste assis, ça change rien. Je peux savoir qu'il y a du feu dans la bâtisse qui s'en vient. Mais si je ne bouge pas, comprenez-vous ce qui risque d'arriver? Il faut que j'agisse comme Noé. Noé a été averti de ce qui s'en venait. Comme nous sommes avertis de ce qui s'en vient. Et nous sommes avertis de ce que nous devons faire. Et sur qui nous devons compter pour être capables de faire. Il nous donne tous les moyens pour y arriver. Alors, on ne doit pas tarder. Comme Noé, qui n'a pas tardé, qui a bâti l'arche qui lui a été demandé, c'est écrit dans la Bible que Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Formidable! Il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Aimer Dieu, là, c'est obéir à ses lois. L'amour de Dieu est indissociable de l'obéissance à ses lois. Absolument. Totalement. 1 Jean 2. Allez à 1 Jean 2, un dernier verset. 1 Jean chapitre 2. Et ça résume très bien et très clairement ce que je vous explique. 1 Jean 2, verset 3 à 6. Si nous ne gardons pas ses commandements, autrement dit, ce qu'il nous dit de faire, si nous ne nous appliquons pas à faire ce qu'il nous dit de faire, je peux croire en Dieu, mais je ne crois pas Dieu. Je ne fais pas ce qu'il me dit. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, aussi simple que ça. Et la vérité n'est point en lui, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. C'est le seul chemin. Et il nous promet toute l'aide nécessaire pour être capable d'y arriver. La vraie foi, c'est d'obéir à Dieu dans ce qu'il nous dit exactement. Alors écoutez, préparons-nous soigneusement aux deux fêtes du printemps qui approchent beaucoup. Ceux d'entre nous qui ne sont pas encore baptisés, continuez joyeusement à apprendre les lois de Dieu, à découvrir, à mettre en pratique au mieux possible. Célébrez la fête des pains sans levain avec reconnaissance, faisant ça et continuant de changer pour adapter votre vie à ce que Dieu vous montre, vous vous préparez vers le baptême et vous vous préparez à marcher vers la vie éternelle. Pour tous ceux qui sont baptisés, qui sont à l'Église, continuons de nous examiner et mettons l'accent plus que sur les événements mondiaux, sur le fait de se préparer d'ici les jours et de la Pâque et des pains sans levain. Continuons de nous purifier. Préparons-nous à prendre cette Pâque très joyeusement, profondément reconnaissant et dignement, en souvenir et à la gloire de notre merveilleux Sauveur.